Gousse avait une servante jolie et qui lui servait de moitié plus souvent que la sienne. Ce partage inégal avait troublé la paix domestique. Quoique rien ne fût plus difficile que de tourmenter cet homme, celui de tous qui s'épouvantait le moins du bruit, il prit le parti de quitter sa femme et de vivre avec sa servante. Mais toute sa fortune consistait en meubles, en machines, en dessins, en outils et autres effets mobiliers. Et il aimait mieux laisser sa femme toute nue que de s'en aller les mains vides. En conséquence, voici le projet qu'il conçut. Ce fut de faire des billets à sa servante qui en poursuivrait le paiement et obtiendrait la saisie et la vente de ses effets, qui irait du pont Saint-Michel dans le logement où il se proposait de s'installer avec elle. Il est enchanté de l'idée, il fait des billets, il s'assigne, il a deux procureurs. Le voilà courant chez l'un et chez l'autre, se poursuivant lui-même avec toute la vivacité possible, s'attaquant bien, se défendant mal, le voilà condamné à payer sous les peines portées par la loi, le voilà s'emparant en idée de tout ce qu'il pouvait y avoir dans sa maison, mais il n'en fut pas tout à fait ainsi. Il avait affaire à une coquine très rusée, qui, au lieu de le faire exécuter dans ses meubles, se jeta sur sa personne, le fit prendre et mettre en prison, en sorte que, quelque bizarres que fussent les réponses énigmatiques qu'il m'avait faites, elles n'en étaient pas moins vraies. Tandis que je vous faisais cette histoire que vous prendrez pour un conte, et celle de l'homme à la livrée qui raclait de la basse, lecteur, je vous la promets, d'honneur, vous ne la perdrez pas, mais permettez que je revienne à Jacques et à son maître. Jacques et son maître avaient atteint le gîte où ils avaient la nuit à passer. Il était tard, la porte de la ville était fermée, et ils avaient été obligés de s'arrêter dans le faubourg. Là, j'entends un vacarme. « Vous entendez? Vous n'y étiez pas, il ne s'agit pas de vous. » « Il est vrai. » « Eh bien, Jacques, son maître, on entend un vacarme effroyable. Je vois deux hommes. »« Vous ne voyez rien, il ne s'agit pas de vous, vous n'y étiez pas. » « Il est vrai. » Il y avait deux hommes à table, causant assez tranquillement à la porte de la chambre qu'ils occupaient. Une femme, les deux poings sur les côtés, leur vomissait un torrent d'injures, et Jacques essayait d'apaiser cette femme, qui n'écoutait non plus ses remontrances pacifiques, que les deux personnages à qui elle s'adressait ne faisaient attention à ses invectives. « Allons, ma bonne, lui disait Jacques, patience, remettez-vous, voyons de quoi s'agit-il. Ces messieurs me semblent d'honnêtes gens. » Eux, d'honnêtes gens, ce sont des brutaux, des gens sans pitié, sans humanité, sans aucun sentiment. Et quel malheur faisait cette pauvre Nicole pour la maltraiter ainsi. Elle en sera peut-être estropiée pour le reste de sa vie. Le mal n'est peut-être pas aussi grand que vous le croyez. Le coup a été effroyable, vous dis-je, elle en sera estropiée. Il faut voir, il faut envoyer chercher le chirurgien. On y est allé, la mettre au lit. Elle y est. Et pousse des cris à feindre le cœur, ma pauvre Nicole. Au milieu de ces lamentations, on sonnait d'un côté et l'on criait « Notre hôtesse, du vin !» Elle répondait « On y va !» On sonnait d'un autre côté et l'on criait « Notre hôtesse, du linge !» Elle répondait « On y va, les côtelettes et le canard !» On y va, un pot à boire, un pot de chambre !» On y va, on y va !» Et d'un autre coin du logis, un homme forcené criait « Maudit bavard, enragé bavard, de quoi te mêles-tu? As-tu résolu de me faire attendre jusqu'à demain? Jacques, Jacques !» L'hôtesse, un peu remise de sa douleur et de sa fureur, dit à Jacques « Monsieur, laissez-moi, vous êtes trop bon. »« Jacques, Jacques ! Courez vite, ah, si vous saviez tous les malheurs de cette pauvre créature !»« Jacques, Jacques ! Allez donc, c'est, je crois, votre maître qui vous appelle. »« Jacques, Jacques !» C'était en effet le maître de Jacques qui s'était déshabillé seul, qui se mourait de faim et qui s'impatientait de n'être pas servi. Jacques monta, et un moment après Jacques, l'hôtesse, qui avait vraiment l'air abattu. « Monsieur, dit-elle au maître de Jacques, mille pardons. C'est qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne saurait digérer, que voulez-vous? J'ai des poulets, des pigeons, un rable de lièvre excellent, des lapins, c'est le canton des bons lapins. Aimeriez-vous mieux un oiseau de rivière ? » Jacques ordonna le souper de son maître comme pour lui, selon son usage. On servit, et tout en dévorant, le maître disait à Jacques « Hey, que diable faisais-tu là-bas » « Peut-être un bien, peut-être un mal, qui le sait ?»« Et quel bien ou quel mal faisais-tu là-bas » « J'empêchais cette femme de se faire assommer elle-même par deux hommes qui sont là-bas et qui ont cassé tout au moins un bras à sa servante. Et peut-être ça aurait été pour elle un bien que d'être assommée ?» Par 10 raisons meilleures les unes que les autres. Un des plus grands bonheurs qui me soit arrivé de ma vie, à moi qui vous parle. C'est d'avoir été assommé, à boire. Oui, monsieur, assommé. Assommé sur le grand chemin la nuit, en revenant du village. Comme je vous le disais, après avoir fait, selon moi, la sottise, selon vous, la belle œuvre, de donner mon argent. Je me rappelle. À boire. Et l'origine de la querelle que tu as apaisée là-bas, et du mauvais traitement fait à la fille ou à la servante de l'hôtesse. Ma foi, je l'ignore. Tu ignores le fond d'une affaire et tu t'en mêles. Jacques, cela n'est ni selon la prudence, ni selon la justice, ni selon les principes. À boire. Je ne sais ce que c'est que des principes selon des règles qu'on prescrit aux autres pour soi. Je pense d'une façon, et je ne saurais m'empêcher de faire d'une autre. Tous les sermons ressemblent au préambule des édits du roi. Tous les prédicateurs voudraient qu'on pratiquât leurs leçons, parce que nous nous en trouverions mieux peut-être. Mais eux, à coup sûr, la vertu, Jacques, c'est une bonne chose. Les méchants et les bons en disent du bien. À boire ! Car ils y trouvent les uns et les autres leur compte. Et comment fût-ce un si grand bonheur pour toi d'être assommé ? Il est tard, vous avez bien soupé, et moi aussi. Nous sommes fatigués tous les deux. Croyez-moi, couchons-nous. Cela ne se peut, et l'hôtesse nous doit encore quelque chose. En attendant, reprends l'histoire de tes amours. Où en étais-je ? Je vous prie, mon maître, pour cette fois-ci, et pour toutes les autres, de me remettre sur la voie. Je m'en charge, et pour entrer en ma fonction de souffleur, tu étais dans ton lit, sans argent, fort empêché de ta personne, tandis que la doctoresse et ses enfants mangeaient ta rôtie au sucre. Alors, on entendit un carrosse s'arrêter à la porte de la maison. Un valet entre et demande. « N'est-ce pas ici que loge un pauvre homme ?» Un soldat qui marche avec une béquille, qui revint hier au soir du village prochain ? Oui, répondit la doctoresse, que lui voulez-vous ? Le prendre dans ce carrosse et l'amener avec nous. Il est dans ce lit, tirez les rideaux et parlez-lui. Jacques en était là, lorsque l'hôtesse entra et leur dit, que voulez-vous pour dessert ? Ce que vous avez. L'hôtesse, sans se donner la peine de descendre, cria de la chambre, Nanon, apportez des fruits, des biscuits, des confitures. À ce mot de Nanon, Jacques dit à part lui. Ah, c'est sa fille qu'on a maltraitée. On se mettrait en colère à moins. Et le maître dit à l'hôtesse. Vous étiez bien fâchée tout à l'heure. L'hôtesse. Et qui est-ce qui ne se fâcherait pas ? La pauvre créature ne leur avait rien fait. Elle était à peine entrée dans leur chambre que je l'entends jeter des cris, mais des cris, Dieu merci. Je suis un peu rassurée. Le chirurgien prétend que ce ne sera rien. Elle a cependant 2 énormes contusions. L'une à la tête, l'autre à l'épaule. Y a-t-il longtemps que vous l'avez ?
15 au plus.
Elle avait été abandonnée à la poste voisine.
Comment ? Abandonnée ?
Et mon Dieu, oui. C'est qu'il y a des gens qui sont plus durs que des pierres. Elle a pensé être noyée en passant la rivière qui coule ici près. Elle est arrivée ici comme par miracle. Et je l'ai reçue par charité.
Quel âge a-t-elle ?
Je lui crois plus 1 an et demi. À ce mot, Jacques part d'un éclat de rire et s'écrie. « C'est une chienne !»« La plus jolie bête du monde. Je ne donnerai pas ma Nicole pour 10 louis. Ma pauvre Nicole. »
Madame a le cœur bon.
« Vous l'avez dit, je tiens à mes bêtes et à mes gens. »«
C'est fort bien fait.
Et qui sont ceux qui ont si fort maltraité votre Nicole ?»«
2 bourgeois de la ville prochaine. Ils se parlent sans cesse à l'oreille. Ils s'imaginent qu'on ne sait ce qu'ils disent et qu'on ignore leur aventure. » Il n'y a pas plus de 3 heures qu'ils sont ici, et il ne me manque pas un mot de toute leur affaire. Elle est plaisante, et si vous n'étiez pas plus pressé de vous coucher que moi, je vous la raconterais, tout comme leur domestique l'a dit à ma servante, qui s'est trouvée par hasard être sa payse, qui l'a redite à mon ami, qui me l'a redite. La belle-mère du plus jeune a passé par ici, il n'y a pas plus de 3 mois. Elle s'en allait assez malgré elle dans un couvent de province où elle n'a pas fait vieux os. Elle y est morte, et voilà pourquoi nos 2 jeunes gens sont en deuil. Mais voilà que, sans m'en apercevoir, j'enfile leur histoire. Bonsoir, messieurs, et bonne nuit. Vous avez trouvé le vin bon ?
Très bon.
Vous avez été content de votre souper ?
Très content. Vos épinards étaient un peu salés.
J'ai quelquefois la main lourde. Vous serez bien couché et dans des draps de lessive. Ils ne servent jamais ici deux fois.
Cela dit, l'hôtesse se retira et Jacques et son maître se mirent au lit en riant du quiproquo qui leur avait fait prendre une chienne pour la fille ou la servante de la maison et de la passion de l'hôtesse pour une chienne perdue qu'elle possédait depuis 15 jours.
Jacques dit à son maître, en attachant le serre-tête à son bonnet de nuit,
« Je gagerais bien que, de tout ce qui a vie dans l'auberge, cette femme n'aime que sa Nicole. »
Son maître lui répondit, « Cela se peut, Jacques, mais dormons. »
Tandis que Jacques et son maître reposent, « Je vais m'acquitter de ma promesse par le récit de l'homme de la prison qui raclait de la basse, ou plutôt de son camarade, le sieur Gousse. »
Ce troisième, me dit-il, est un intendant de grande maison. Il était devenu amoureux d'une pâtissière de la rue de l'Université. Le pâtissier était un bon homme, qui regardait de plus près à son four qu'à la conduite de sa femme. Si ce n'était pas sa jalousie, c'était son assiduité qui gênait nos deux amants. Que firent-ils pour se délivrer de cette contrainte ?
L'intendant présenta à son maître un placé où le pâtissier était traduit comme un homme de mauvaise mœurs, un ivrogne qui ne sortait pas de la taverne, un brutal qui battait sa femme, la plus honnête et la plus malheureuse des femmes. Sur ce placé, il obtint une lettre de cachet, et cette lettre de cachet, qui disposait de la liberté du mari, fut mise entre les mains d'un exempt pour l'exécuter sans délai. Il arriva par hasard que cet exempt était l'ami du pâtissier. Ils allaient de temps en temps chez le marchand de vin, le pâtissier fournissait les petits pâtés, l'exempt payait la bouteille. Celui-ci, muni de la lettre de cachet, passe devant la porte du pâtissier et lui fait le signe convenu. Les voilà tous les deux occupés à manger et à arroser les petits pâtés, et l'exempt demande à son camarade comment allait son commerce.
Fort bien.
S'il n'avait aucune mauvaise affaire.
Aucune.
S'il n'avait point d'ennemis, il ne s'en connaissait pas. Comme il vivait avec ses parents, ses voisins, sa femme, en amitié et en paix.
D'où peut donc venir, ajouta l'exempt, l'ordre que j'ai de t'arrêter.
Si je faisais mon devoir, je te mettrai la main au collet, il y aurait là un carrosse tout prêt, et je te conduirai au lieu prescrit par cette lettre de cachet. Tiens, lis.
Le pâtissier lut et pâlit. L'exempt lui dit,
rassure-toi, avisons seulement ensemble à ce que nous avons de mieux à faire pour ma sûreté et pour la tienne. Qui est-ce qui fréquente chez toi ?
Personne.
Ta femme est coquette et jolie.
Je la laisse faire à sa tête.
Personne ne la couche-t-il en joue ?
Ma foi, non. Si ce n'est un certain attendant qui vient quelquefois lui serrer les mains et lui débiter des sornettes. Mais c'est dans ma boutique, devant moi, en présence de mes garçons, et je crois qu'il ne se passe rien entre eux qui ne soit en tout bien et en tout honneur.
Tu es un bon homme.
Cela se peut, mais le mieux de tout point est de croire sa femme honnête, et c'est ce que je fais.
Et cet intendant, à qui est-il ?
À monsieur de Saint-Florentin.
Et de quel bureau crois-tu que vienne la lettre de cachet ?
Des bureaux de monsieur de Saint-Florentin, peut-être ?
Tu l'as dit.
Oh, manger ma pâtisserie, baiser ma femme et me faire enfermer, cela est trop noir et je ne saurais le croire.
Tu es un bon homme. Depuis quelques jours, comment trouves-tu ta femme ?
Plutôt triste que gaie.
Et l'intendant ? Y a-t-il longtemps que tu ne l'as vue ?
Hier, je crois.
Oui, c'était hier.
N'as-tu rien remarqué ?
Je suis fort peu remarquant. Mais il m'a semblé qu'en se séparant, il se faisait quelques signes de la tête, comme quand l'un dit oui et que l'autre dit non.
Quelle était la tête qui disait oui ?
Celle de l'intendant.
Ils sont innocents ou ils sont complices ?
Écoute, mon ami, ne rentre pas chez toi. Sauve-toi en quelque lieu de sûreté, au temple, dans l'abbaye, où tu voudras, et cependant laisse-moi faire. Surtout, souviens-toi bien
de ne pas me montrer et de me taire.
C'est cela.
Au même moment, la maison du pâtissier est entourée d'espions. Des mouchards, sous toutes sortes de vêtements, s'adressent à la pâtissière et lui demandent son mari. Elle répond à l'un qu'il est malade, à un autre qu'il est parti pour une fête, à un troisième pour une noce. Quand il reviendra, elle n'en sait rien. Le troisième jour,
sur les 2 heures du matin, on vient avertir l'exempt qu'on avait vu un homme, le nez enveloppé dans un manteau, ouvrir doucement la porte de la rue et se glisser doucement dans la maison du pâtissier. Aussitôt l'exempt, accompagné d'un commissaire, d'un serrurier, d'un fiacre et de quelques archers, se transporte sur les lieux. La porte est crochetée, l'exempt et le commissaire montent à petit bruit. On frappe à la chambre de la pâtissière. Point de réponse. On frappe encore. Point de réponse. À la troisième fois, on demande du dedans. Qui est-ce ?
Ouvrez !
Qui est-ce ?
Ouvrez, c'est de la part du roi.
Bon, disait l'intendant à la pâtissière avec laquelle il était couché, il n'y a point de danger. C'est l'exempt qui vient pour exécuter son ordre. Ouvrez, je me nommerai, il se retirera, et tout sera fini. La pâtissière, en chemise, ouvre et se remet dans son lit. L'exempt. Où est votre mari ?
La pâtissière. Il n'y est pas.
L'exempt, écartant le rideau.
Qui est-ce qui est donc là ?
L'intendant. C'est moi, je suis l'intendant de monsieur de Saint-Florentin.
Vous mentez, vous êtes le pâtissier, car le pâtissier est celui qui couche avec la pâtissière. Levez-vous, habillez-vous et suivez-moi.
Il fallut obéir, on le conduisit ici. Le ministre, instruit de la scélératesse de son intendant, a approuvé la conduite de l'exempt qui doit venir ce soir à la chute du jour le prendre dans cette prison pour le transférer à Bicêtre, où grâce à l'économie des administrateurs, il mangera son quarteron de mauvais pain, son once de vache, et raclera de sa basse du matin au soir. Si j'allais aussi mettre ma tête sur un oreiller, en attendant le réveil de Jacques et de son maître, qu'en pensez-vous ? Le lendemain, Jacques se leva de grand matin, mit la tête à la fenêtre pour voir quel temps il faisait, vit qu'il faisait un temps détestable, se recoucha et nous laissa dormir, son maître et moi, tant qu'il nous plut. Jacques, son maître et les autres voyageurs, qui s'étaient arrêtés au même gîte, crurent que le ciel s'éclaircirait sur le midi. Il n'en fut rien, et la pluie de l'orage ayant gonflé le ruisseau qui séparait le faubourg de la ville, au point qu'il eût été dangereux de le passer, tous ceux dont la route conduisait de ce côté prirent le parti de perdre une journée et d'attendre. Les uns se mirent à causer, d'autres à aller et venir, à mettre le nez à la porte, à regarder le ciel et à rentrer en jurant et frappant du pied. Plusieurs, à politiquer et à boire, beaucoup à jouer, le reste à fumer, à dormir et à ne rien faire. Le maître dit à Jacques. J'espère que Jacques va reprendre le récit de ses amours et que le ciel, qui veut que j'aie la satisfaction d'en entendre la fin, nous retient ici par le mauvais temps.
Jacques. Le ciel qui veut.
On ne sait jamais ce que le ciel veut ou ne veut pas, et il n'en sait peut-être rien lui-même. Mon pauvre capitaine qui n'est plus me l'a répété 100 fois, et plus j'ai vécu, plus j'ai reconnu qu'il avait raison. À vous, mon maître.
J'entends. Tu en étais au carrosse et au valet, à qui la doctoresse a dit d'ouvrir ton rideau et de te parler.
Ce valet s'approche de mon lit et me dit. Allons, camarade, debout, habillez-vous et partons. Je lui répondis d'entre les draps et la couverture dont j'avais la tête enveloppée, sans le voir, sans être vu.
Camarade, laissez-moi dormir et partez.
Le valet me réplique qu'il a des ordres de son maître et qu'il faut qu'il les exécute.
Et votre maître qui ordonne d'un homme qu'il ne connaît pas, a-t-il ordonné de payer ce que je dois ici ?
C'est une affaire faite. Dépêchez-vous, tout le monde vous attend au château, où je vous réponds que vous serez mieux qu'ici, si la suite répond à la curiosité qu'on a de vous.
Je me laisse persuader, je me lève, je m'habille, on me prend sous le bras. J'avais fait mes adieux à la doctoresse et j'allais monter en carrosse, lorsque cette femme, s'approchant de moi, me tire par la manche et me prie de passer dans un coin de la chambre qu'elle avait un mot à me dire.
Là, notre amie, ajouta-t-elle, vous n'avez point, je crois, à vous plaindre de nous. Le docteur vous a sauvé une jambe, moi je vous ai bien soigné, et j'espère qu'au château vous ne nous oublierez pas.
Qui pourrais-je pour vous ?
Demandez que ce fût mon mari qui vint pour vous y penser. Il y a du monde là. C'est la meilleure pratique du canton.
Le Seigneur est un homme généreux, on en est grassement payé, il ne tiendrait qu'à vous de faire notre fortune. Mon mari a bien tenté à plusieurs reprises de s'y fourrer, mais inutilement.
Mais madame la doctoresse, n'y a-t-il pas un chirurgien du château ?
Assurément.
Et si cet autre était votre mari, seriez-vous bien aise qu'on le desservît et qu'il fût expulsé ?
Ce chirurgien est un homme à qui vous ne devez rien, et je crois que vous devez quelque chose à mon mari. Si vous allez à deux pieds comme ci-devant, c'est son ouvrage.
Et parce que votre mari m'a fait du bien, il faut que je fasse du mal à un autre, encore si la place était vacante.
Jacques allait continuer, lorsque l'hôtesse entra, tenant entre ses bras Nicole emmailloté, la baisant, la plaignant, la caressant, lui parlant comme à son enfant.
Ma pauvre Nicole, elle n'a eu qu'un cri de toute la nuit. Et vous, messieurs, avez-vous bien dormi ?
Le maître.
Très bien.
Le temps est pris de tous côtés.
Nous en sommes assez fâchés.
Ces messieurs vont-ils loin ?
Nous n'en savons rien.
Ils vont ou ils s'arrêtent selon les affaires qu'ils ont sur la route ?
Nous n'en avons aucune.
Ces messieurs voyagent pour leur plaisir ?
Ou pour leur peine ?
Je souhaite que ce soit le premier.
Votre souhait n'y fera pas un zeste. Ce sera selon qu'il est écrit là-haut.
Oh, c'est un mariage ?
Peut-être que oui, peut-être que non.
Messieurs, prenez-y garde. Cet homme qui est là-bas et qui a si rudement traité ma pauvre Nicole en a fait un bien saugrenu.
Viens, ma pauvre bête, viens que je te baise, je te promets que cela n'arrivera plus.
Voyez comme elle tremble de tous ses membres.
Et qu'a donc de si singulier le mariage de cet homme ?
À cette question du maître de Jacques, l'hôtesse dit : J'entends du bruit là-bas. Je vais donner mes ordres et je reviens vous conter tout cela. Son mari, las de crier « Ma femme, ma femme !» monte, et avec lui son compère qu'il ne voyait pas.
L'hôte dit à sa femme
« Et que diable faites-vous là ?»
Puis se retournant et apercevant son compère
« Apportez-vous de l'argent ?»
Le compère « Non, compère, vous savez bien que je n'en ai point. »«
Tu n'en as point ?
Je saurais bien en faire avec ta charrue, tes chevaux, tes bœufs et ton lit.
Comment, gredin ?»«
Je ne suis point un gredin. »
Et qui es-tu donc ? Tu es dans la misère, tu ne sais où prendre de quoi ensemencer tes champs. Ton propriétaire, là de te faire des avances, ne te veut plus rien donner. Tu viens à moi, cette femme intercède, cette maudite bavarde, qui est la cause de toutes les sottises de ma vie, me résout à te prêter. Je te prête, tu promets de me rendre, tu me manques 10 fois. Oh, je te promets, moi, que je ne te manquerai pas. Sors d'ici.
Jacques et son maître se préparaient à plaider pour ce pauvre diable, mais l'hôtesse, en posant le doigt sur sa bouche, leur fit signe de se taire.
« Sors d'ici !»«
Compère, tout ce que vous dites est vrai. Il est aussi que les huissiers sont chez moi et que dans un moment nous serons réduits à la besace, ma fille, mon garçon et moi. »«
C'est le sort que tu mérites. Qu'es-tu venu faire ici ce matin ?
Je quitte le remplissage de mon vin, je remonte de ma cave et je ne te trouve point.
Sors d'ici, te dis-je. »«
Compère, j'étais venu. » J'ai craint la réception que vous me faites. Je m'en suis retourné et je m'en vais.
Tu feras bien.
Voilà donc ma pauvre Marguerite qui est si sage et si jolie et qui s'en ira en condition à Paris.
En condition à Paris ? Tu en veux donc faire une malheureuse ?
Ce n'est pas moi qui le veux, c'est l'homme dur à qui je parle.
Moi, un homme dur ? Je ne le suis point, je ne le fus jamais, et tu le sais bien.
Je ne suis plus en état de nourrir ma fille, ni mon garçon. Ma fille servira, mon garçon s'engagera.
Et c'est moi qui en serai la cause.
Cela ne sera pas. Tu es un cruel homme, tant que je vivrai, tu seras mon complice. Ça, voyons ce qu'il te faut.
Il ne me faut rien, je suis désolé de vous devoir, et je ne vous devrai de ma vie.
Vous faites plus de mal par vos injures que de bien par vos services.
Si j'avais de l'argent, je vous le jetterais au visage, mais je n'en ai point.
Ma fille deviendra tout ce qu'il plaira à Dieu. Mon garçon se fera tuer s'il le faut, moi je m'en dirai, mais ce ne sera pas à votre porte.
Plus d'obligation à un vilain homme comme vous. Empochez bien l'argent de mes bœufs, de mes chevaux et de mes ustensiles, grand bien vous fasse. Vous êtes né pour faire des ingrats, et je ne veux pas l'être. Adieu.
Ma femme, il s'en va, arrête-le donc.
Allons, compère, avisons moyen de vous secourir.
Je ne veux point de ses secours, ils sont trop chers. »
L'autre répétait sous bas à sa femme.
« Ne le laisse pas aller, arrête-le donc. Sa fille à Paris, son garçon à l'armée, lui à la porte de la paroisse. Je ne saurais souffrir cela. »
Cependant, sa femme faisait des efforts inutiles. Le paysan, qui avait de l'âme, ne voulait rien accepter et se faisait tenir à quatre. L'hôte, les larmes aux yeux, s'adressait à Jacques et à son maître et leur disait « Messieurs, tâchez de le fléchir. » Jacques et son maître se mêlèrent de la partie, tous à la fois conjuraient le paysan. « Si j'ai jamais vu. » « Si vous avez jamais vu, mais vous n'y étiez pas, dites si l'on n'a jamais vu. »
« Eh bien, soit. Si l'on n'a jamais vu un homme confondu d'un refus transporté, qu'on voulut bien accepter son argent, c'était cet hôte. Il embrassait sa femme, il embrassait son compère, il embrassait Jacques et son maître, il criait « Qu'on aille bien vite chasser de lui ces exécrables huissiers. »
Convenez aussi, je conviens que je gâte tous mes compères, que veux-tu, comme je suis, me voilà. Nature m'a fait l'homme le plus dur et le plus tendre, je ne sais ni accorder ni refuser. Ne pourriez-vous pas être autrement? Je suis à l'âge où l'on ne se corrige guère, mais si les premiers qui se sont adressés à moi m'avaient rabroué comme tu as fait, peut-être en serais-je devenu meilleur. Compère, je te remercie de ta leçon, peut-être en profiterai-je. Ma femme, va vite, descends et donne-lui ce qu'il lui faut. Que diable! Marche donc, mordieu, marche donc, tu vas? Ma femme, je te prie de te presser un peu et de ne le pas faire attendre. Tu reviendras ensuite retrouver ces messieurs avec lesquels il me semble que tu te trouves bien. » La femme et le compère descendirent, l'autre resta encore un moment, et lorsqu'il s'en fut allé, Jacques dit à son maître. « Voilà un singulier homme, le ciel qui avait envoyé ce mauvais temps qui nous retient ici, parce qu'il voulait que vous entendissiez mes amours, que veut-il à présent ?» Le maître, en s'étendant dans son fauteuil, bâillant, frappant sur sa tabatière, répondit « Jacques, nous avons plus d'un jour à vivre ensemble à moins que… » « C'est-à-dire que pour aujourd'hui, le ciel veut que je me taise, ou que ce soit l'hôtesse qui parle. C'est une bavarde qui ne demande pas mieux. Qu'elle parle donc ?»«
Tu prends de l'humeur.
C'est que j'aime à parler aussi. »
« Ton tour viendra. »«
Ou ne viendra pas. »
« Je vous entends, lecteur. Voilà, dites-vous, le vrai dénouement du bourru bienfaisant. »«
Je le pense. » »« J'aurais introduit dans cette pièce, si j'en avais été l'auteur, un personnage qu'on aurait pris pour épisodique et qu'il n'aurait point été. Ce personnage se serait montré quelquefois et sa présence aurait été motivée. La première fois, il serait venu demander grâce, mais la crainte d'un mauvais accueil l'aurait fait sortir avant l'arrivée de Géronte. Pressé par l'irruption des huissiers dans sa maison, il aurait eu la seconde fois le courage d'attendre Géronte, mais celui-ci aurait refusé de le voir. Enfin, je l'aurais amené au dénouement, où il aurait fait exactement le rôle de paysan avec l'aubergiste. Il aurait eu, comme le paysan, une fille qu'il allait placer chez une marchande de mode, un fils qu'il allait retirer des écoles pour entrer en condition. Lui, il se serait déterminé à mendier jusqu'à ce qu'il se fût ennuyé de vivre. On aurait vu le bourru bienfaisant au pied de cet homme, on aurait entendu le bourru bienfaisant gourmander comme il le méritait. Il aurait été forcé de s'adresser à toute la famille qui l'aurait environné pour fléchir son débiteur et le contraindre à accepter de nouveaux secours. Le bourru bienfaisant aurait été puni, il aurait promis de se corriger, mais dans le moment même, il serait revenu à son caractère en s'impatientant contre les personnages en scène qui se seraient fait des politesses pour rentrer dans la maison. Il aurait dit brusquement « Que le diable emporte les cérémonies. » Mais il se serait arrêté court au milieu du mot, et d'un ton radouci, il aurait dit à ses nièces « Allons, mes nièces, donnez-moi la main et passons. » Et pour que ce personnage eût été lié au fond, vous en auriez fait un protégé du neveu de Géronte ? Fort bien. Et serait été à la prière du neveu que l'oncle aurait prêté son argent ? À merveille. Et ce prêt aurait été un grief de l'oncle contre son neveu ? C'est cela même. Et le dénouement de cette pièce agréable n'aurait pas été une répétition générale, avec toute la famille encore, de ce qu'il a fait auparavant avec chacun d'eux en particulier ? Vous avez raison, et si je rencontre jamais M. Goldoni,
je lui réciterai la scène de l'auberge. Et vous ferez bien, il est plus habile homme qu'il ne faut pour en tirer bon parti. »
L'hôtesse remonta, toujours Nicole entre ses bras, et dit
« J'espère que vous aurez un bon dîner. Le braconnier vient d'arriver, le garde du seigneur ne tardera pas. »
Et tout en parlant ainsi, elle prenait une chaise. La voilà assise, et son récit qui commence.
« Il faut se méfier des valets. Les maîtres n'ont point de pires ennemis. »
« Madame, vous ne savez pas ce que vous dites. Il y en a de bons, il y en a de mauvais, et l'on compterait peut-être plus de bons valets que de bons maîtres. »
« Jacques, vous ne vous observez pas, et vous commettez précisément la même indiscrétion qui vous a choqué. C'est que les maîtres,
c'est que les valets. »
« Eh bien, lecteur, à quoi tient-il que je n'élève une violente querelle entre ces trois personnages? Que l'hôtesse ne soit prise par les épaules et jetée hors de la chambre par Jacques? Que Jacques ne soit pris par les épaules et chassé par son maître? Que l'un ne s'en aille d'un côté, l'autre d'un autre? Et que vous n'entendiez ni l'histoire de l'hôtesse, ni la suite des amours de Jacques?
Rassurez-vous, je n'en ferai rien. »
L'hôtesse reprit donc. « Il faut convenir que s'il y a de bien méchants hommes, il y a de bien méchantes femmes. »
« Et qu'il ne faut pas aller loin pour les trouver. »
« De quoi vous mêlez-vous? Je suis femme. Il me convient de dire des femmes tout ce qu'il me plaira. Je n'ai que faire de votre approbation. »
« Mon approbation en vaut bien une autre. »
« Vous avez là, monsieur, un valet qui fait l'entendu et qui vous manque. J'ai des valets aussi, mais je voudrais bien qu'ils s'avisassent. »
« Jacques, taisez-vous et laissez parler madame. »
L'hôtesse, encouragée par ce propos de maître, se lève, entreprend Jacques, porte ses deux poings sur ses côtés, oublie qu'elle tient Nicole, la lâche, et voilà Nicole sur le carreau, froissée et se débattant dans son maillot, aboyant à tue-tête, l'hôtesse mêlant ses cris aux aboiements de Nicole, Jacques mêlant ses éclats de rire aux aboiements de Nicole et aux cris de l'hôtesse, et le maître de Jacques, ouvrant sa tabatière, reniflant sa prise de tabac, et ne pouvant s'empêcher de rire. Voilà toute l'hôtellerie en tumulte.
« Nanon, Nanon, vite, vite, apportez la bouteille à l'eau-de-vie. Ma pauvre Nicole est morte, démaillotée là, que vous êtes gauche. »
Je fais de mon mieux.
Comme elle crie, ôtez-vous de là, laissez-moi faire. Elle est morte. Ris bien, grand Nigo, il y a en effet de quoi rire. Ma pauvre Nicole est morte.
Non, madame, non. Je crois qu'elle en reviendra, la voilà qui remue.
Et Nanon de frotter d'eau-de-vie le nez de la chienne et de lui en faire avaler, et l'hôtesse de se lamenter, de se déchaîner contre les valets impertinents, et Nanon de dire «
Tenez, madame, elle ouvre les yeux, la voilà qui vous regarde.
La pauvre bête, comme cela parle, qui n'en serait touchée?
Madame, caressez-la donc un peu, répondez-lui donc quelque chose.
Viens, ma pauvre Nicole, crie, mon enfant, crie si cela peut te soulager. Il y a un sort pour les bêtes comme pour les gens. Il envoie le bonheur à des fainéants hargneux, braillards et gourmands, le malheur à une autre qui sera la meilleure créature du monde.
Madame a bien raison, il n'y a point de justice ici-bas.
Taisez-vous, remaillotez-la, portez-la sous mon oreiller, et songez qu'au moindre cri qu'elle fera, je m'en prends à vous.
Viens, pauvre bête, que je t'embrasse encore une fois avant qu'on t'emporte.
Approchez-la donc, sotte que vous êtes.
Ces chiens, cela est si bon, cela vaut mieux.
Jacques, que père, mère, frère, sœur, enfant, valet, époux.
Mais oui, ne pensez pas rire. Cela est innocent, cela vous est fidèle. Cela ne vous fait jamais de mal au lieu que le reste.
Vive les chiens! Il n'y a rien de plus parfait sous le ciel.
S'il y a quelque chose de plus parfait, du moins ce n'est pas l'homme. Je voudrais bien que vous connussiez celui du meunier. C'est l'amoureux de ma Nicole. Il n'y en a pas un parmi vous, tous tant que vous êtes, qu'il ne fît rougir de honte. Il vient dès la pointe du jour de plus d'une lieue, il se plante devant cette fenêtre, ce sont des soupirs, et des soupirs à faire pitié. Quelque temps qu'il fasse, il reste, la pluie lui tombe sur le corps, son corps s'enfonce dans le sable, à peine lui voit-on les oreilles et le bout du nez.
En feriez-vous autant pour la femme que vous aimeriez le plus?
Cela est très galant.
Mais aussi, où est la femme aussi digne de ses soins que votre Nicole?
La passion de l'hôtesse pour les bêtes n'était pourtant pas sa passion dominante, comme on pourrait l'imaginer. C'était celle de parler. Plus on avait de plaisir et de patience à l'écouter, plus on avait de mérite. Plus on avait de plaisir et de patience à l'écouter, plus on avait de mérite. Aussi ne se fit-elle pas prier pour reprendre l'histoire interrompue du mariage singulier. Elle y mit seulement pour condition que Jacques se tairait.
Le maître promit du silence pour Jacques. Jacques s'étala nonchalamment dans un coin, les yeux fermés, son bonnet renfoncé sur ses oreilles et le dos à demi tourné à l'hôtesse. Le maître toussa, cracha, se moucha, tira sa montre, vit l'heure qu'il était, tira sa tabatière, frappa sur le couvercle, prit sa prise de tabac, et l'hôtesse se mit en devoir de goûter le plaisir délicieux de pérorer. L'hôtesse allait débuter lorsqu'elle entendit sa chienne crier. « Nanon, voyez donc à cette pauvre bête, cela me trouble, je ne sais plus où j'en étais. » « Jacques, vous n'avez encore rien dit. Ces deux hommes avec lesquels j'étais en querelle pour ma pauvre Nicole lorsque vous êtes arrivé, monsieur. Dites, messieurs. Et pourquoi ? C'est qu'on nous a traités jusqu'à présent avec politesse, et que j'y suis fait. Mon maître m'appelle Jacques, les autres, monsieur Jacques. Je ne vous appelle ni Jacques ni monsieur Jacques, je ne vous parle pas. Madame, qu'est-ce ? La carte numéro 5, voyez sur le coin de la cheminée. Ces deux hommes sont bons gentilshommes, ils viennent de Paris et ils s'en vont à la terre du plus âgé.
Qui c'est cela ?
Eux qui le disent ?
Belle raison.
Le maître fit un signe à l'hôtesse, sur lequel elle comprit que Jacques avait la cervelle brouillée. L'hôtesse répondit au signe du maître par un mouvement compatissant des épaules et ajouta :
À son âge, cela est très fâcheux.
Très fâcheux de ne savoir jamais où l'on va. Le plus âgé des deux s'appelle le marquis des Arcis. C'était un homme de plaisir, très aimable, croyant peu à la vertu des femmes.
Il avait raison.
Monsieur Jacques, vous m'interrompez.
Madame l'hôtesse du grand cerf, je ne vous parle pas.
Monsieur le marquis en trouva pourtant une assez bizarre pour lui tenir rigueur. Elle s'appelait Madame de la Pommeraye. C'était une veuve qui avait des mœurs, de la naissance, de la fortune et de la hauteur. Monsieur des Arcis rompit avec toutes ses connaissances, s'attacha uniquement à Madame de la Pommeraye, lui fit sa cour avec la plus grande assiduité, tâcha par tous les sacrifices imaginables de lui prouver qu'il l'aimait, lui proposa même de l'épouser. Mais cette femme avait été si malheureuse avec un premier mari qu'elle...
« Madame, qu'est-ce ? La clé du coffre à l'avoine ? Voyez au clou si elle n'y est pas, voyez au coffre. »
Qu'elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'au danger d'un second mariage. Ah, si cela avait été écrit là-haut ! Cette femme vivait très retirée. Le marquis était un ancien ami de son mari, elle l'avait reçu, et elle continuait de le recevoir. Si on lui pardonnait son goût effréné pour la galanterie, c'était ce qu'on appelle un homme d'honneur. La poursuite constante du marquis secondait de ses qualités personnelles, de sa jeunesse, de sa figure, des apparences de la passion la plus vraie, de la solitude, du penchant à la tendresse, en un mot, de tout ce qui nous livre à la séduction des hommes.
« Madame, qu'est-ce ? C'est le courrier, mettez-le à la chambre verte et servez-le à l'ordinaire. »
Eut son effet, et Madame de la Pommeraye, après avoir lutté plusieurs mois contre le marquis, contre elle-même, exigeait selon l'usage des serments les plus solennels, rendit heureux le marquis qui aurait joui du sort le plus doux, s'il avait pu conserver pour sa maîtresse les sentiments qu'il avait jurés et qu'on avait pour lui. Tenez, monsieur, il n'y a que les femmes qui sachent aimer, les hommes n'y entendent rien.
Madame, qu'est-ce ? Le frère quêteur.
Donnez-lui 12 sous pour ces messieurs qui sont ici, 6 sous pour moi, et qu'il aille dans les autres chambres. Au bout de quelques années, le marquis commença à trouver la vie de Madame de la Pommeraye trop unie. Il lui proposa de se répandre dans la société, elle y consentit, à recevoir quelques femmes et quelques hommes, et elle y consentit, à avoir un dîner souper, et elle y consentit. Peu à peu, il passa un jour, 2 jours sans la voir, peu à peu il manqua au dîner souper qu'il avait arrangé, peu à peu il abrégea ses visites, il eut des affaires qu'il appelait. Lorsqu'il arrivait, il disait un mot, s'étalait dans un fauteuil, prenait une brochure, la jetait, parlait à son chien ou s'endormait. Le soir, sa santé, qui devenait misérable, voulait qu'il se retirât de bonne heure. C'était l'avis de Tronchin. « C'est un grand homme que Tronchin, ma foi. Je ne doute pas qu'il ne tire d'affaire notre ami dont les autres désespéraient. » Et tout en parlant ainsi, il prenait sa canne et son chapeau et s'en allait, oubliant quelquefois de l'embrasser. Madame de la Pommeraye.
Madame, qu'est-ce ? Le tonnelier, qu'il descende à la cave et qu'il visite les 2 pièces de vin.
Madame de la Pommeraye pressentit qu'elle n'était plus aimée.
Il fallut s'en assurer, et voici comment elle s'y prit.
« Madame, j'y vais, j'y vais !»
L'hôtesse, fatiguée de ces interruptions, descendit et prit apparemment les moyens de les faire cesser. Un jour, après dîner, elle dit au marquis « Mon ami, vous rêvez. »«
Vous rêvez aussi, marquise. » »«
Il est vrai, et même assez tristement. » »«
Qu'avez-vous ?»«
Rien. » »«
Cela n'est pas vrai. » »«
Allons, marquise, » dit-il en bâillant. « Racontez-moi cela, cela vous désennuiera, et moi. »«
Et qu'est-ce que vous vous ennuyez ?»«
Non, c'est qu'il y a des jours où l'on s'ennuie. »
Vous vous trompez, mon ami, je vous jure que vous vous trompez.
C'est qu'en effet, il y a des jours, on ne sait à quoi cela tient.
Mon ami, il y a longtemps que je suis tenté de vous faire une confidence, mais je crains de vous affliger.
Vous pourriez m'affliger, vous ?
Peut-être, mais le ciel m'est témoin de mon innocence.
Madame, 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 pour qui et pour quoi que ce soit, je vous ai défendu de m'appeler. Appelez mon mari, il est absent.
Messieurs, je vous demande pardon, je suis à vous dans un moment.
Voilà l'hôtesse descendue, remontée et reprenant son récit.
Mais cela s'est fait sans mon consentement, à mon insu, par une malédiction à laquelle toute l'espèce humaine est apparemment assujettie, puisque moi, moi-même, je n'y ai pas échappé.
Ah, c'est de vous. Et avoir peur, de quoi s'agit-il ?
Marquis, il s'agit... Je suis désolé, je vais vous désoler, et tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise.
Non, mon ami, parlez. Auriez-vous au fond de votre cœur un secret pour moi ?
La première de nos conventions ne fut-elle pas que nos âmes s'ouvriraient l'une à l'autre sans réserve ?
Il est vrai, et voilà ce qui me pèse. C'est un reproche qui met le comble à un beaucoup plus important que je me fais.
Est-ce que vous ne vous apercevez pas que je n'ai plus la même gaieté ? J'ai perdu l'appétit. Je ne bois et ne mange que par raison. Je ne saurais dormir. Nos sociétés les plus intimes me déplaisent. La nuit, je m'interroge et je me dis, est-ce qu'il est moins aimable ?
Non.
Est-ce que vous auriez à vous en plaindre ?
Non.
Auriez-vous à lui reprocher quelques liaisons suspectes ?
Non.
Est-ce que sa tendresse pour vous est diminuée ?
Non.
Pourquoi, votre ami étant le même, votre cœur est-il donc changé ?
Car il l'est, vous ne pouvez vous le cacher.
Vous ne l'attendez plus avec la même impatience, vous n'avez plus le même plaisir à le voir. Cette inquiétude quand il tardait à revenir, cette douce émotion au bruit de sa voiture quand on l'annonçait, quand il paraissait, vous ne l'éprouvez plus.
Comment, madame ?
Alors, la marquise de la Pommeraye se couvrit les yeux de ses mains, pencha la tête et se tut un moment, après lequel elle ajouta :
Marquis, je me suis attendu à tout votre étonnement, à toutes les choses amères que vous m'allez dire.
Marquis, épargnez-moi.
Non, ne m'épargnez pas, dites-les-moi, je les écouterai avec résignation parce que je les mérite.
Oui, mon cher marquis, il est vrai, oui, je suis. Mais n'est-ce pas un assez grand malheur que la chose soit arrivée, sans y ajouter encore la honte, le mépris d'être fausse, en vous le dissimulant ?
Vous êtes le même, mais votre ami est changé. Votre ami vous révère, vous estime autant et plus que jamais, mais
une femme accoutumée comme elle à examiner de près ce qui se passe dans les replis les plus secrets de son âme, et à ne s'en imposer sur rien, ne peut se cacher que l'amour en est sorti. La découverte est affreuse, mais elle n'en est pas moins réelle.
La marquise de la Pommeraye, moi, inconstante, légère,
marquis entré en fureur, chercher les noms les plus odieux, je me les suis donnés d'avance, donnez-les-moi, je suis prête à les accepter tous, excepté celui de femme fausse, que vous m'épargnerez, je l'espère, car en vérité je ne le suis pas.
Ma femme, qu'est-ce ?
Rien.
On n'a pas un moment de repos dans cette maison, même les jours qu'on n'a presque point de monde et que l'on croit n'avoir rien à faire, qu'une femme de mon état est à plaindre, surtout avec une bête de mari.
Cela dit, madame de la Pommeraye se renversa sur son fauteuil et se mit à pleurer.
Le marquis se précipita à ses genoux et lui dit
« Vous êtes une femme charmante, une femme adorable, une femme comme il n'y en a point. Votre franchise, votre honnêteté me confond et devrait me faire mourir de honte. »
Ah, quelle supériorité ce moment vous donne sur moi, que je vous vois grande et que je me trouve petit. C'est vous qui avez parlé la première, et c'est moi qui fus coupable le premier.
Mon ami, votre sincérité m'entraîne, je serais un monstre si elle ne m'entraînait pas, et je vous avouerai que l'histoire de votre cœur est mot à mot l'histoire du mien.
Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit, mais je me taisais,
Je souffrais, et je ne sais quand j'aurais eu le courage de parler.
Vrai, mon ami ?
Rien de plus vrai. Et il ne nous reste qu'à nous féliciter réciproquement d'avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait. En effet, quel malheur que mon amour eût duré lorsque le vôtre aurait cessé, ou que ce fût en moi qui l'eût cessé le premier. Vous avez raison, je le sens. Jamais vous ne m'avez paru aussi aimable, aussi belle que dans ce moment. Et si l'expérience du passé ne m'avait rendu circonspect, je croirais vous aimer plus que jamais. » Et le marquis, en lui parlant ainsi, lui prenait les mains et les lui baisait. « Ma femme, qu'est-ce ? Le marchand de paille, voit sur le registre. Et le registre ? Reste, je l'ai. » Madame de la Pommeraye, renfermant en elle-même le dépit mortel dont elle était déchirée, reprit la parole et dit au marquis. « Mais marquis, qu'allons-nous devenir ?
Nous ne nous en sommes imposés ni l'un ni l'autre. Vous avez droit à toute mon estime. Je ne crois pas avoir entièrement perdu le droit que j'avais à la vôtre. Nous continuerons de nous voir, nous nous livrerons à la confiance de la plus tendre amitié. Nous nous serons épargnés tous ces ennuis, toutes ces perfidies, tous ces reproches, toute cette humeur qui accompagne communément les passions qui finissent. Nous serons uniques dans notre espèce. Vous recouvrerez toute votre liberté, vous me rendrez la mienne, nous voyagerons dans le monde, je serai le confident de vos conquêtes, je ne vous scellerai rien des miennes, si j'en fais quelques-unes, ce dont je doute fort, car vous m'avez rendu difficile. Cela sera délicieux. Vous m'aiderez de vos conseils, je ne vous refuserai pas les miens dans les circonstances périlleuses où vous croirez en avoir besoin. Qui sait ce qui peut arriver ?
Jacques. Personne.
Il est très vraisemblable que plus j'irai, plus vous gagnerez aux comparaisons, et que je vous reviendrai plus passionné, plus tendre, plus convaincu que jamais Madame de la Pommeraye était la seule femme faite pour mon bonheur. Et après ce retour, il y a tout à parier que je vous resterai jusqu'à la fin de ma vie. S'il arrivait qu'à votre retour vous ne me trouvassiez plus, car enfin, marquis, on n'est pas toujours juste, il ne serait pas impossible que je ne me prisse de goût, de fantaisie, de passion même pour un autre qui ne vous voudrait pas.
J'en serais assurément désolé, mais je n'aurais point à me plaindre. Je ne m'en plaindrais qu'au sort qui nous aurait séparés lorsque nous étions unis et qui nous rapprocherait lorsque nous pourrions plus l'être.
Après cette conversation, ils se mirent à moraliser sur l'inconstance du cœur humain, sur la frivolité des serments, sur les liens du mariage.
« Madame, qu'est-ce ? Le coche !»«
Messieurs, dit l'hôtesse, il faut que je vous quitte. Ce soir, lorsque toutes mes affaires seront faites, je reviendrai et je vous achèverai cette aventure si vous en êtes curieux.
« Madame, ma femme, notre hôtesse, on y va !»
L'hôtesse partit. Le maître dit à son valet.
Jacques, as-tu remarqué une chose ?
Quelle ?
C'est que cette femme raconte beaucoup mieux qu'il ne convient à une femme d'auberge.
Il est vrai. Les fréquentes interruptions des gens de cette maison m'ont impatienté plusieurs fois.
Et moi aussi.
Et vous, lecteur, parlez sans dissimulation, car vous voyez que nous sommes en beau train de franchise. Voulez-vous que nous laissions là cette élégante et prolixe bavarde d'hôtesse et que nous reprenions les amours de Jacques ?
Pour moi, je ne tiens à rien.
Lorsque cette femme remontera, Jacques le bavard ne demande pas mieux que de reprendre son rôle et que de lui fermer la porte au nez. Il en sera quitte pour lui dire par le trou de la serrure « Bonsoir, madame, mon maître d'or, je vais me coucher. Il faut remettre le reste à notre passage. »
Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d'un rocher qui tombait en poussière. Ils attestèrent de leur constance un ciel qui n'est pas un instant le même. Tout passait en eux et autour d'eux, et ils croyaient leur cœur affranchi de vicissitudes. Ô enfant, toujours enfant. Je ne sais de qui sont ces réflexions, de Jacques, de son maître ou de moi. Il est certain qu'elles sont de l'un des trois, et qu'elles furent précédées et suivies de beaucoup d'autres qui nous auraient menés, Jacques, son maître et moi, jusqu'au souper, jusqu'après le souper, jusqu'au retour de l'hôtesse, si Jacques nous dit à son maître « Tenez, monsieur, toutes ces grandes sentences que vous venez de débiter à propos de bottes ne valent pas une vieille fable des écraignes de mon village. »
Et quelle est cette fable ?
C'est la fable de la gaine et du coutelet. Un jour, la gaine et le coutelet se prirent de querelle. Le coutelet dit à la gaine : « Gaine, mamie, vous êtes une friponne, car tous les jours vous recevez de nouveaux coutelets. » La gaine répondit au coutelet : « Mon ami coutelet, vous êtes un fripon, car tous les jours vous changez de gaine. »
Gaine, ce n'est pas là ce que vous m'avez promis. Coutelet, vous m'avez trompé le premier. » Ce débat s'était élevé à table. Syl, qui était assis entre la Gaine et le Coutelet, prit la parole et leur dit « Vous, Gaine, et vous, Coutelet, vous fîtes bien de changer, puisque le changement vous séduisait, mais vous eûtes tort de vous promettre que vous ne changeriez pas. Coutelet, ne voyais-tu pas que Dieu te fit pour aller à plusieurs Gaines, et toi, Gaine, pour recevoir plus d'un Coutelet ? Vous regardiez comme fou certains Coutelets qui faisaient vœu de se passer à forfait de Gaines, et comme folle certaines Gaines qui faisaient vœu de se fermer pour tout Coutelet ? Et vous ne pensiez pas que vous étiez presque aussi fou lorsque vous juriez, toi, Gaine, de t'en tenir à un seul Coutelet, toi, Coutelet, de t'en tenir à une seule Gaine ?